With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui c'est le plus fort. Aujourd'hui, on va parler de football. On va parler de football français, de footballeurs français et plus particulièrement d'un numéro, le 9. Qui est le meilleur avant-centre français de l'histoire? Pour répondre à ces questions, je serai là, votre serviteur Maxime Dupuis, mais j'ai autour de moi trois avocats de grande qualité. J'ai Martin Mosnier, le Éric Dupont-Moretti du barreau. Le roi de la mauvaise foi. Salut Martin, comment ça va?
Bah ça va, aujourd'hui pas besoin de mauvaise foi, donc tout va bien. Je vais vous avoir, mais à la régulière.
T'es sûr que tu vas y arriver ça?
Sans aucun problème.
Ok, ça va. Glenn Cellier, pour moi Glenn Cellier c'est le Robert Badinter des causes perdues. Il va défendre David Trezeguet apparemment, c'est ça Glenn?
C'est exactement ça, et c'est pas du tout une cause perdue, c'est le choix du cœur, mais aussi le choix de la raison.
Et enfin, un invité de marque bien connu des couloirs d'Eurosport, Ilyes Ramdani. Alors Ilyes, j'ai cherché un avocat pour toi, j'ai pas trouvé, j'ai envie de te laisser le choix, sinon c'est un avocat qui n'exerce plus, ce serait Nicolas Sarkozy, est-ce que ça te va?
Oh la référence, ça fait plaisir, belle introduction Maxime. salut Maxime, salut tout le monde.
Ilyes Ramdani, bientôt chez Mediapart pour essayer de faire tomber la République.
En attendant, je vais essayer de faire tomber Glenn Cellier et Martin Mosnier.
Moi, oh, Glenn Cellier tout de suite. Ah, oui, Maxime. C'est vrai. Maxime défend quelqu'un quand même.
C'est vrai. Ouais. Mais comme tu ne l'avais pas encore introduit, j'attendais que tu nous expliques de quoi tu allais parler.
De quoi je vais parler? J'espère de la même chose que toi, mais peut-être pas des mêmes arguments. Donc, on va parler avant-centre, ouais. Comme je l'ai dit en introduction. On va faire un premier petit tour de table avec vous trois. Vous allez me dire, peut-être en une phrase, deux phrases, qui vous défendez pour le meilleur avant-centre de l'histoire du football français? Et surtout, pourquoi? On va commencer par Martin Mosnier. Vas-y, Martin.
Moi, je vais défendre le plus grand avant-centre français de l'histoire, celui qui a tout gagné, celui qui marquait le plus de buts, champion du monde, champion d'Europe, Ligue des champions, il a tout gagné. Voilà, c'est Thierry Henry, évidemment. Qui d'autre? Personne d'autre.
C'est très bien. Glenn Cellier, toi, tu défends. Oh, j'ai un peu spoilé au début, mais tu vas pouvoir le redire.
Mais oui, évidemment, je défends David Trezeguet. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on me dit qui est le meilleur avant-centre, quand on me parle d'avant-centre, je pense à David Trezeguet, au roi David, pour son obsession du but, ce besoin vital de marquer qui, pour moi, doit caractériser un neuf.
Ilyes?
Écoute, si je suis venu, Maxime, c'est pour défendre une cause contre laquelle je sais que vous vous élèverez bien vite dans ce débat, celle de Karim Benzema. Je suis venu vous expliquer, non pas vous convaincre, mais vous expliquer pourquoi il était le meilleur.
On retrouve le Ilyes, le maître Ilyes qui va nous donner une leçon à tous.
Parce que je confirme que tu n'arriveras pas à nous convaincre.
Et ben moi, pour ma part, je vais tout simplement défendre le seul ballon d'or de la salle, c'est-à-dire Jean-Pierre Papin, ballon d'or 1991, l'un des rares ballons d'or du football français, voilà. On l'a un peu oublié, mais j'ai vraiment envie de parler de Jean-Pierre Papin. Et pour vous donner une petite anecdote, avant l'enregistrement, j'ai parlé avec un journaliste concurrent d'un média concurrent. Et quand je lui ai dit, il m'a demandé qui tu défendrais en numéro 9, j'ai dit Jean-Pierre Papin. Il m'a dit, eh oui, qui d'autre? Voilà, tout simplement.
D'accord.
On intrigue du coup.
Ouais. Ça s'intrigue. Bah, écoute, Martin, puisque tu es d'accord avec ça, vas-y, démarre sur Thierry Henry. Explique-nous un peu pourquoi tu mets Thierry Henry, plus grand avant-centre de l'histoire du football français.
J'entends les moqueurs, j'entends déjà ceux qui vont me dire Thierry Henry, ce n'est pas un avant-centre. Ceux-là, je les invite déjà à regarder les matchs à l'Arsenal, je les invite à regarder le Mondial 2006, je les invite même à regarder l'Euro 2000. Bref, d'abord, Thierry Henry, il a tout gagné. Contrairement à Papin et Benzema, il a quelques titres avec l'équipe de France. Et quand Maxime, je connais ton amour des sélections nationales, je sais que tu ne restes pas insensible au palmarès de Thierry Henry. Voilà, c'est le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Champion d'Europe, évidemment, champion du monde, évidemment. Il a gagné une Ligue des Champions avec Barcelone. Certes, il n'était plus attaquant, mais malgré tout, quand on parle de Thierry Henry, on parle des invincibles d'Arsenal, on parle de la France à l'Euro 2000 et on parle du Barça de Guardiola. Trois références du 21e siècle, trois des plus grandes équipes du 21e siècle. Le point commun, c'est Thierry Henry. Évidemment, c'est aussi un buteur sensationnel. C'est simple, entre 2000 et 2010, il n'y a aucun attaquant, pas français, il n'y a aucun attaquant au monde qui a marqué plus de buts que Thierry Henry en Europe, je vais dire. Shevchenko, Raoul, Inzaghi, Trezeguet évidemment, ils sont tous très très loin derrière. C'est le meilleur buteur aussi hein, de nos quatre prétendants en carrière, Thierry Henry. Et quand on parle d'avant-centre, eh ben, messieurs, il faut quand même penser au but, il faut penser au palmarès. On sait aussi à ce qu'il incarne. Là, je n'ai pas besoin de parler. Il y a une statue qui parle pour lui hein, du côté d'Arsenal. C'est le seul, hein, je crois, là aussi, à avoir une statue. Bref, Thierry Henry, c'est la classe absolue. C'est ce qui se fait de mieux dans l'histoire du football français et de très, alors de très, 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 très loin. Et pour être tout à fait franc, je ne comprends même pas qu'il y ait débat.
Convaincu par la démonstration de Martin Mosnier ?
Moi, j'ai un petit bémol, c'est ça. C'est en gros, c'est ce que tente de Martin essaye de nous convaincre là-dessus. Mais pour moi, Henry, c'est pas juste un avant-centre. Pour moi, c'est vraiment un attaquant. C'est un attaquant formidable. Et c'est peut-être mon petit bémol, c'est que là, on parle, le débat, c'est sur un avant-centre pur et dur. Et j'ai du mal à résumer Henry au fait d'être juste un pur avant-centre. Pour moi, il est bien plus que ça. À Barcelone, il jouait sur un côté gauche. À Monaco aussi, parce qu'il y avait un certain terrain très aigué devant. Donc c'est plus par rapport à ça, moi j'ai un peu de mal là-dessus.
Mais, oui, mais alors juste Glenn, mais alors pourquoi Trezeguet du coup il était tout le temps remplaçant d'Henri en équipe de France? Bah, parce qu'Henri joue en pointe. Alors sauf si Trezeguet n'était pas toujours en pointe. Ouais, ouais. Coupe du monde 2006 par exemple, Trezeguet il joue pas parce que c'est Henri.
Totalement.
Devant.
Euro parce 2000, que c'est un choix. Pareil. Mais là c'est un autre débat, c'est avec Raymond Domenech.
C'est pas parce
Trezeguet,
qu'il est
plus en gros, il y avait un problème d'incompatibilité entre Raymond Domenech et David Trezeguet, on le sait. Et du coup voilà, son style de jeu aussi, le style de jeu de Domenech n'allait pas. Aussi avec le style de Trezeguet, c'est-à-dire que Domenech aimait jouer bas.
Et, oui, mais l'avant-centre c'était Thierry Henry.
Bah oui, parce que le style de jeu de Domenech, parce que le style de jeu de Domenech allait mieux au style de jeu de Thierry Henry.
Mais c'est pas parce qu'il est plus complet que les autres que ça n'en reste pas moins un avant-centre. C'est comme Karim Benzema. Ouais. Il est très
non,
complet.
Je dis juste que j'ai du mal à le réduire à ça et que pour moi un vrai, un pur avant-centre, c'est très.
Je réduis pas à ça, mais ça reste un avant-centre.
Moi, pour moi, Thierry Henry est le meilleur attaquant de l'histoire du football français.
C'est ça.
Mais ce n'est pas le meilleur avant-centre de l'histoire du football français, tout simplement. C'est qu'en avant-centre pur et dur, le meilleur français n'est pas lui, parce que, encore une fois, il est bien plus que ça, c'est-à-dire qu'il dépasse évidemment ce caractère-là. Et ce qui est pour la carrière, évidemment, la relation avec Trezeguet, oui, en effet, il l'a tué parce qu'il avait tout simplement, il est plus talentueux, tout simplement. Si c'est aussi dire le plus talentueux, évidemment, là, dans la liste des quatre, le talentueux pur. Je pense qu'entre Henry et Benzema, il y a quelque chose. Et voire même, il y en a un qu'on n'a pas mis, qui pour moi était sûrement beaucoup plus talentueux, c'est Nicolas Nelka. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais en effet, après, pour ce qui est pour la machine à but, je suis d'accord avec toi. Mais par exemple, bon, je ne vais pas spoiler ce que je vais dire après sur Jean-Pierre Papin. Il a marqué une vingtaine de buts, parce que je suis allé vérifier aussi, de plus que Papin en carrière, mais en 130 matchs de plus. Donc, ça dit aussi la différence de…
Ouais, mais Thierry Henry, il n'a pas fini sa carrière à l'Union sportive de l'Aige Cap-Ferré.
Ouais, enfin, il est parti au New York
Times. Aux États-Unis,
donc,
ouais.
C'est pas forcément. À l'époque, il n'y avait pas de MLS comme ça. Donc...
C'est un peu
non,
mieux.
Mais... Ouais, mais non, mais ça. Alors là, si
non, mais Henry, partir... Henry non, fait mais deux si... fois soulier d'or. Il fait deux fois soulier d'or. C'est quand même, c'est un vrai buteur. C'est un vrai.
Ah, voilà. Mais personne ne dit ça. Je pense que c'est plus qu'un avançant, tout simplement. C'est un très grand attaquant. Parce que si tu élargis aux attaquants, tu peux mettre Messi, tu peux mettre Ronaldo, tout ce que tu veux.
Non, parce que Thierry Henry, il a quand même joué en pointe. Par exemple, oui. À Arsenal, il a toujours.
Arsenal.
À Arsenal, il venait pour remplacer Anelka. Donc, il a joué en pointe. Toute la Coupe du Monde 2006, il joue en pointe. La plupart de. L'Euro 2000, c'est pareil. Il se la partage avec Anelka, mais il joue.
À l'Euro 2000, c'est particulier, ouais.
Ben oui, mais malgré tout, c'est Thierry, Anelka ou Henry. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un mec dont le champ principal d'action, ça restait quand même la surface de réparation. C'était un attaquant. Et ce n'est pas parce qu'il est plus qu'un avant-centre qu'il n'est pas un avant-centre. Vous voyez ce que je veux dire?
Ah bah non, oui, mais est-ce que ça dit qu'il est le meilleur dans ce poste-là?
Bah oui.
Pour moi, c'est vraiment le meilleur attaquant.
Oui. C'est sans commune mesure avec les autres. Je veux dire, c'est pas Griezmann, c'est pas Kingsley Coman, Thierry Henry. Au début de sa carrière,
c'était
Kingsley Coman. Au début de sa carrière, mais c'est au pinacle de sa carrière.
Ce qui lui est arrivé à la Juve au début, se retrouver milieu gauche, ça ne pouvait pas arriver à Jean-Pierre Papin ou à David Trezeguet pour le coup.
Ça s'est très vite arrêté.
C'est un footballeur beaucoup plus complet, évidemment. Dans le même style de footballeur, parce que là, on parle justement, il y a presque un débat philosophique entre ce qu'est un avant-centre, ce qui est devenu aussi un avant-centre, Ilias, tu es bien placé parce que le joueur que tu défends, c'est Karim Benzema. Et moi, j'ai coutume de dire que Karim Benzema, c'est un 10 dans un corps de 9, en quelque sorte. Tout simplement pour expliquer que son rayonnement est beaucoup plus large que la simple surface.
Ouais, bah c'est vrai, c'est pour ça que moi je vous rejoins pas totalement sur l'argument de presque d'enlever à Henry la qualité d'attaquant, de pur attaquant. Et moi je pense qu'Henry il est éligible en fait au débat qui est le nôtre aujourd'hui et qu'on peut effectivement, Martin a raison, c'est un attaquant, un buteur, etc. Donc je pense que ça, pour moi il est éligible, il est juste. Il peut juste en tout cas être perçu un tout petit peu en dessous de Benzema, mais c'est vrai que les quatre, les quatre dont on parle là entre nous, c'est quatre façons différentes d'être attaquant en fait. Mais ce serait quoi les critères pour définir le pur avançant? Est-ce que c'est un profil de jeu? Moi, je trouve ça un peu réducteur. Les quatre ont joué attaquant, les quatre ont marqué des buts, les quatre étaient plus souvent
attaquant ou avant
qu'ailleurs. Et
avant-centre.
Les quatre ont joué en position de numéro 9 et ont marqué. Ils l'ont fait différemment. Mais à partir du moment où ils ont joué au même poste et ils ont marqué des buts tous les quatre et c'était leur principal rôle dans l'équipe, pour moi, voilà, ils sont comparables. Mais sur ce que tu dis, Maxime, sur le 9 qui est 10, en fait, c'est un peu. Messi, dans l'autre sens, c'est un peu pareil aujourd'hui. Il joue un peu comme un 10, mais finalement, c'est le meilleur buteur de l'équipe. Donc je pense que c'est l'évolution du football qui veut ça. Et ça n'enlève pas grand-chose à la qualité et d'Henry et de Benzema. D'attaquant, d'avant-centre. Quoi.
Oui, puis Henry, c'était quelqu'un qui prenait la profondeur. C'est aussi d'autres qualités. Il y avait Trezeguet et Henry. C'est sûr que ce n'est pas comparable à ce niveau-là. Mais ils occupaient le même poste en équipe de France, encore une fois. Ils étaient en concurrence. Donc, à partir du moment où ils sont en concurrence, on peut les comparer. C'est aussi simple que ça, en fait.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas les comparer. Moi, j'en parlerai tout à l'heure. Mais pour moi.
Vas-y maintenant.
Alors, je vais évidemment parler de David Trezeguet qui. Alors évidemment, a peut-être un palmarès un peu moins rempli que Thierry Henry, qui à l'inverse de Karim Benzema ou de Jean-Pierre Papin a lui brillé en équipe de France avec la Coupe du Monde et évidemment l'Euro. Mais pour moi, ce qui caractérise David Trezeguet, c'est cette obsession du but. Je le répète, c'est vraiment un besoin vital. Et ça, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux en fait vraiment quand je parle d'un avant-centre, quand je parle d'un numéro 9. J'ai besoin en fait que le joueur ait cette envie de marquer tout le temps, que en gros ce soit peut-être plus important que le collectif. Pour moi, c'est ça aussi ce qui caractérise un neuf, et notamment ce qui caractérisait un neuf avant. Ça a évolué ces derniers temps. Je suis pas sûr, par exemple, et ça je vous rejoins totalement, je pense que vous allez en parler, que David Trezeguet s'adapterait aujourd'hui au foot actuel. Mais à son époque, ce qu'il a réussi à faire, c'était juste dingue. Il est joué, évidemment, Martin l'a dit tout à l'heure, il a moins joué en équipe de France parce que Thierry Henry, parce que Raymond Domenech surtout, il a eu un temps de jeu moins important, mais son ratio de buts par minute est juste monstrueux. Dès qu'il rentrait, Trezeguet, c'était presque une occasion. Dès qu'il y avait une occasion, il était là, il mettait le pied, que ce soit le pied droit, le pied gauche, le genou, la tête. Vous inquiétez pas, ça va aller finir au fond parce que Trezeguet était là. C'est ce que j'aime, c'est ce que pour moi, c'est ce qui caractérise vraiment un avant-centre.
Mais l'obsession du but, je pense que les quatre qu'on défend là, ils l'ont. Et puis...
pas autant que Trezeguet, je suis désolé. Benzema n'a pas cette obsession du but comme Trezeguet. Henry l'a eu à Arsenal.
Oui,
et d'ailleurs, Henry, quand il part à Barcelone, il le disait qu'il avait complètement perdu cette obsession du but parce qu'il était décalé et qu'à cette époque-là, il devait un peu plus centrer que jouer devant le but. Et pour moi, Jean-Pierre Papin avait cette obsession du but comme Trezeguet. Mais les deux autres, je suis moins d'accord avec vous.
Oui, mais les deux autres ont fait beaucoup plus de passes décisives aussi dans leur carrière, mais ça n'enlève pas qu'ils étaient obsédés par lui. Moi, le vrai problème que j'ai avec Trezeguet, c'est que le vrai problème que j'ai vraiment, c'est qu'il est contemporain de Thierry Henry, donc on peut les comparer. Et qu'entre les deux.
Mais pour moi, c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est ce que tu dis, c'est que le meilleur attaquant de l'équipe de France, c'est Henry, le meilleur.
Oui, mais il l'a bouffé au poste d'avant-centre.
Parce qu'il y a un choix de Raymond Domenech.
Et en 2000, c'est pas Raymond Domenech en 2000. Et Trezeguet, il fait une Coupe du Monde titulaire. Pas de bol, hein. C'est 2002, quoi. Donc, il a eu sa chance aussi et il s'est fait manger, il s'est fait croquer. Donc, pour moi,
il n'empêche, quand tu vois ce qu'il fait en club, par exemple, avec la Juventus, qui à l'époque, je vous rappelle, la Serie A, c'est pas n'importe quel championnat. C'est le championnat peut-être le plus compliqué pour un attaquant. Il est monstrueux dans le championnat italien à cette époque-là. C'est vraiment le chasseur de buts par excellence. Et là-dessus, je pense que les autres sont, notamment Karim Benzema et Thierry Henry, sont pas de la même dimension, je pense. Juste pour cette obsession du but et cette capacité à chasser le but.
Le débat, c'est pas le débat, c'est quoi, c'est la, la trace dans l'histoire. Non, parce qu'en fait, c'est cette notion d'obsession, enfin, c'est ton côté romantique qui parle. Mais,
un peu.
Tu sais, c'est comme au Tour de France, le prix du super combatif. Quoi. Alors, Trezeguet, sur les avancements de l'équipe de France, on lui donne, si tu veux, le prix de la combativité. Mais le maillot jaune, bah, ça ne peut pas être Trezeguet, pour les arguments qu'a donné Martin et pour d'autres. C'est-à-dire que, pour moi, ouais, c'est ton romantisme qui te fait dire ça.
J'entends, c'est évidemment mon romantisme.
Si tu ne parles pas trop de l'équipe de France, ça risque de se retourner.
Oui, c'est pas faux. Alors, évidemment, c'est mon romantisme, il y a cette t'as raison là-dessus, mais pour moi, et alors, parce que aussi j'ai grandi avec cette époque-là aussi, mais vraiment quand on me parle d'un avant-centre, le premier qui me vient à l'esprit, c'est David Trezeguet, parce que justement il caractérise tout ce qui, pour moi, doit être un vrai avant-centre.
Mais ce qui est intéressant, je le redis, ça va me permettre d'enchaîner sur Jean-Pierre Papin, c'est que encore une fois, on a un débat philosophique sur ce qui est un avant-centre, c'est sur ce qui a été un avant-centre. Et comme tu le dis, Martin, le problème de Trezeguet, sans doute, a été d'être contemporain de Henri, parce que quand on a parlé de ce débat, qu'on allait faire ce débat-là, moi j'ai tout de suite pensé à Jean-Pierre Papin. Pourquoi ? Parce que c'était le style de footballeur, l'avant-centre de surface, et encore même s'il est plus que ça, qui a été ringardisé par ces nouveaux attaquants du type Anelka, du type Ronaldo. Ronaldo, il les ringardise tous, et quand tu arrives à Ronaldo, je parle du Brésilien, tu arrives à Henri, Anelka et tous ces types-là qui sont plus justement que des avant-centres. Et on arrive même 15 ans après au faux neuf, à des équipes qui jouent sans ça. Moi, je défends Papin parce que justement, sans être anachronique, déjà de rappeler que, encore une fois, ici, c'est le seul ballon d'or des trois. Et ça signifie quelque chose, mais tu peux le dire. C'est à l'époque…
Non, mais simplement parce que c'est quand même le défendeur du ballon d'or qui le défend aujourd'hui.
C'est le seul ballon… Moi ? Tu es sérieux ?
Non, mais tu préfères les accomplissements collectifs aux accomplissements individuels, Maxime.
Alors, laisse-moi y venir. Il est ballon d'or, c'est le seul mec à avoir été honoré dans un club français. Donc déjà, ça dit quelque chose. Quand il gagne son ballon d'or, alors on va dire que c'est 91, c'est pas une année de Coupe du Monde, etc. C'est vrai, mais il gagne, je crois que c'est l'écart record à l'époque entre le premier et le deuxième. Il explose complètement la compète parce qu'il fait une énorme année. Et surtout, c'est le fer de lance à cette époque-là, il faut le dire, d'une des trois meilleures équipes d'Europe. Et il va être acheté par ce qui est la meilleure équipe du monde un an après, au prime de sa carrière, ce qui dit quand même ce qu'il est dans une équipe en plus qui, à l'époque, droit à trois étrangers et dont l'avancante titulaire s'appelle Marco Van Basten. Quand même. Donc, ça dit quelque chose. Cinq fois meilleur buteur du championnat de France. Et il y a un truc qui… C'est unique, évidemment. Un truc que j'ai bien aimé dans ce que tu as dit, Martin, sur la statue. Papin, ouais, c'est vrai, il n'a pas de statue, mais il a laissé une trace iconique, les papinades. Il n'y a pas d'autre équivalent dans ce qu'il a été. Et surtout… Là où j'ai envie de défendre Jean-Pierre Papin, c'est que, alors on va dire, oui, c'est des reprises de volée, tout ça, déjà, c'est pas si mal, mais Papin, moi, de tous ceux qui sont là, je pense que c'est le seul que j'ai vu marquer sur coup franc, sur pénalty, de la tête, du gauche, du droit, des reprises de volée, des bicyclettes, des frappes de 25 mètres. Il avait aussi plus que l'image qu'on en a aujourd'hui du simple patator. Si on est anachronique, on va dire aujourd'hui, bah oui, il n'est pas du tout adapté dans le football d'aujourd'hui. Ça, je vous le laisse, c'est possible. Sauf que, par exemple, je ne suis pas sûr que les footballeurs type Henri ou Benzema auraient été plus adaptés au football du début des années 90, parce que c'était le rôle qu'ils ont, c'était presque plus le rôle classique de numéro 10. Et dernière chose que je voudrais ajouter pour dire quand même qu'il a fait est assez immense en équipe de France. Alors, évidemment, il lui a manqué les titres. Il est arrivé ou trop tard ou trop tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, en 98, il a 35 ans et c'est fini. C'est 30 buts en 54 sélections, ça fait un ratio de 0,56. Platini, c'est 0,57. C'est pour dire combien il a aussi tiré l'équipe de France vers le haut. Quand Platini parlait de Papin et de Cantona, il disait « Moi, dans mon équipe, j'ai deux grands joueurs et j'ai 9 joueurs moyens. » Il n'est peut-être pas tombé à la bonne époque, voilà, mais je pense qu'au niveau des avancantes français, je voulais rétablir un peu sa mémoire parce que je trouve qu'on oublie que c'est un immense avancante.
Mais tu as raison de le réhabiliter, Papin, parce que moi, j'ai grandi avec lui. Il faut quand même se souvenir que c'était la big star de l'époque quand même, Papin. Et puis, c'était aussi un des premiers qui allait dans les grands clubs européens. Il y a aussi ce côté-là avec JPP. Il a ouvert…
Justement là-dessus.
Mais moi, le problème que j'ai avec JPP, c'est… Alors, sa première saison à Milan, elle est bien. C'est après, quoi.
C'est ce que j'allais dire. Par exemple, Henri, voilà. Il a les titres en équipe de France pour lui. Benzema, on va en parler, il a la carrière en club à l'étranger dans les plus gros clubs européens pour lui. J'ai l'impression que Papin, sur les deux… oui, d'accord, Glenn.
Merci, Elias, de le rappeler.
Non, mais c'est vrai, excuse-moi.
Il est certain que Papin…
Mais par contre, Papin, il n'a aucun des deux, en fait. Il a échoué dans les grands clubs européens. Il a échoué en équipe de France collectivement.
C'est un tout petit peu…
Un peu caricatural, mais… Enfin, il a réussi.
Non, il n'y a qu'un truc que Papin Bayern a de mieux sur le palmarès, c'est Ballon d'Or, évidemment. Ça, c'est clair. En revanche, c'est sûr que quand il arrive à l'AC Milan, manque de peau, il arrive la saison où l'OM va être champion d'Europe face à l'AC Milan, justement. Mais il est quand même meilleur buteur de l'AC Milan cette année-là en championnat. C'est pas rien, quand même. Et après, Pour ce qui est du Bayern, oui, mais il est blessé tout le temps. Et ça, pour le coup, malheureusement.
Et même sa deuxième saison,
même au Milan, ça finit en
Ligue des Champions.
La deuxième saison.
Il n'est même pas sur la feuille de match.
La deuxième saison n'est pas bonne. Mais il faut rappeler un truc, et c'est en 95, au moment où ça ne marche pas bien au Bayern, il y a quand même Ferguson qui vient essayer de le débaucher pour reconstituer la
doublette
Papin Cantona à Manchester. Donc ça dit quelque chose. Et un autre truc qu'il faut rappeler aussi, c'est quand il vient à Bordeaux, il a déjà 34 ans, donc on ne parle pas exactement d'un joueur qui est dans son prime, il marque 16 buts. Le meilleur buteur, je crois qu'il a 22, ça veut dire Divarche. Et à ce moment-là, Jacquet laisse comprendre que s'il fait une autre saison comme ça l'année d'après, il n'y a pas de raison de ne pas le revoir, parce qu'en plus, il n'a pas le caractère pour foutre le bazar dans une équipe.
Avec Dessy, Papin, c'est le meilleur attaquant français de l'histoire.
Il n'y a pas qu'avec Dessy.
Avec Dessy, le problème que j'ai avec Papin, c'est qu'il, malgré lui, ça je suis d'accord avec toi, il a le talent, il a tout, il marque énormément de buts. Malgré tout, quand on se retourne, il incarne un tout petit peu pas la mauvaise période du football français d'un point de vue international, équipe de France. Oui, il gagne le ballon d'or, oui. Mais ouais, tu vois, il échoue quand même malgré tout. Si on regarde la big picture dans les clubs internationaux, il échoue quand même malgré tout. En équipe de France, oui, en 86, non. Mais c'est pas le premier choix. Après, c'est pas terrible. Et donc, il incarne cette dernière période de la France voilà, qui ne règne pas sur le
football international. Mais l'argument se tient à un détail près, c'est-à-dire qu'au moment où Papin signe à l'AC Milan, il y a 6 étrangers à l'AC Milan, dont les 3 néerlandais, et ils n'ont le droit d'en faire jouer que 3. C'est aussi ça, c'est toujours pareil. On doit toujours avoir le recul de se rendre compte que ce n'est pas la même chose de signer à l'AC Milan aujourd'hui, surtout dans le club que c'est devenu, ou dans un très grand club où tu peux jouer tous les jours. S'il n'y a pas de problème d'étrangers, tu mets Papin et Van Basten en même temps. Tu n'es pas obligé de mettre Gullit sur le banc.
Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que là, si on recentre sur notre débat, Henry, il incarne Arsenal. Vraiment. Oui, il incarne Arsenal. C'est lui. Non, mais Papin, alors, il n'incarne pas Milan, le Bayern Munich, encore moins. Trézéguet, la Juve, je ne suis pas certain.
Le meilleur buteur de l'histoire étranger Real, de la Juve.
Ouais. Mais je pense qu'il y a plus Del Piero à cette époque-là qui l'incarne. Mais bon, peut-être, pourquoi pas.
Non, je ne parle pas d'incarnation, je suis d'accord.
Et Real, c'est Ronaldo.
Oui, mais
Cristiano. Après, Arsenal, c'est un peu moins fort que ces clubs-là aussi.
Avoir une statue Arsenal quand tu compares à des mecs qui ont joué au Real à la Juve. Oui. En fait, c'est une question d'échelle. Là, on parle du foot français. C'est à l'échelle de mon club, Aubervilliers, peut-être que j'aurai une statue.
En finale de Ligue des Champions,
tu ne peux pas comparer complètement Arsenal à cette époque-là et le Real.
Ce n'est pas l'Arsenal d'aujourd'hui non plus.
Ou la c'est Milan de l'époque qui était la dernière équipe à avoir fait le doublé avant le Real de Benzema, justement.
Et il a été dans un grand club, Henri, sans l'incarner, mais le Barça de Guardiola, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux.
Oui, il n'y a pas mieux, mais pour le coup, il n'était plus
avancé. Il ne jouait pas avancé. Ouais.
Oui,
là,
je sais.
Ça va il contre a toi. Non, justement, mais non, au moment où il est dans la meilleure équipe d'Europe, il est sur le côté.
Oui, mais il plante but sur but.
Parce qu'il y avait un attaquant, vrai avançant de devant, qui était meilleur que lui.
Je vais vous poser une question, messieurs.
Vas-y, pose-nous une question.
Vous allez évidemment aller dans le sens de votre joueur, mais sans totalement me donner un nom, même si on va sentir derrière votre choix, c'est quoi un grand avançant, tout simplement? Il n'y a pas de piège, attention.
C'est un chasseur de buts pour moi, je vais faire simple.
C'est un chasseur de buts, oui. C'est un mec qui marque. C'est le mec qui est là pour bonifier son équipe. C'est-à-dire, c'est celui qui est au bout de la chaîne, en fait.
Non, c'est pour concrétiser son équipe plus que le bonifier, je dirais.
Oui, mais c'est le mec au bout de la chaîne. C'est le mec au bout de la chaîne. Et c'est à la fois celui qui marque, c'est celui qui fait des passes des, c'est celui qui fait gagner son équipe. C'est celui qui fait gagner son équipe.
C'est un peu le 10 là que tu me.
Non, il n'y a pas de. Ça dépend. Il y a plusieurs façons parce que moi, je l'entends et moi, je peux très bien l'entendre dans le cas de Jean-Pierre Papin. C'est le type qui faisait gagner son équipe parce qu'il mettait but sur but. Il fait une saison en Ligue 1 à 30 buts. C'est le fer de lance de l'OM qui va être demi-finaliste et finaliste de la Coupe d'Europe des Champions à une époque où les clubs français, pour le coup, n'existaient pas beaucoup. Pas beaucoup moins, pardon. Et voilà, donc je pense qu'il y a cette finalité. Moi, l'importance aussi dans l'incarnation, c'est que ce soit la tête qui dépasse. C'est-à-dire que j'ai du mal à imaginer que le meilleur avant-centre français ne puisse pas être une tête qui dépasse dans son club parce qu'il a besoin d'avoir cette position de fer de lance.
Oui, ça, je suis d'accord. Mais de toute façon, le problème de Papin, c'est pas les qualités, c'est le timing. Le problème de Papin, c'est sans doute le timing. C'est à chaque fois, c'est le timing. Marseille, c'est le timing. Milan AC, c'est le timing. Oui, il lui manque le petit.
Ah oui, mais à Marseille, ça joue un sur un peu près.
Parce qu'il ouais, emmène quand même une finale. Attends, la dernière.
Il y a des carrières qui jouent sur un tir au but. Hein. Glenn pour en parler avec Trezeguet.
Oh oui.
Qui était allé en finale de C1 avant Marseille, c'était Saint-Etienne 15 ans avant. Encore une fois, à l'échelle du football français,
ça, je suis d'accord avec toi.
Prendre compte de l'immensité de l'accomplissement. Et je reviens aussi sur l'équipe de France, parce qu'on va y venir, si l'équipe de France ne peut ne pas compter, évidemment, dans notre débat. Jean-Pierre Papin, on parle des buts marqués, etc. Mais déjà, toujours pareil, pour remettre l'église au milieu du village. Papin, quand il joue les éliminatoires, notamment de l'Euro 92, il n'y a pas toute cette ribambelle de petits pays parce que le mur est en train de sauter, parce qu'il n'y a pas toutes ces républiques de l'Est qui jouent. Et Papin joue intrinsèquement des adversaires beaucoup plus forts et c'est un football beaucoup plus ramassé. Donc le fait d'avoir mis 30 buts en 54 sélections, c'est quand même exceptionnel. Avec, tu as raison, Martin, quand tu parles des vaches maigres, c'est-à-dire qu'en 87, 90 après la retraite de Platini, autour de lui, il n'a personne.
C'est un vrai problème.
Mais n'empêche qu'il bonifie l'équipe, parce que s'il n'est pas là, j'ose même pas imaginer ce qu'il y a derrière. Voilà. L'équipe de France, pour moi, c'est un point important, un moteur important. Évidemment, ça va avantager Martin, parce que Henri, c'est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Trezeguet, 34 buts. Non, mais c'est remarquable aussi.
Trezeguet, sauf que son ratio. Quatrième meilleur buteur. Bah, oui.
Sauf que son ratio est moins bon que Jean-Pierre Papin.
Et oui, totalement, que Platini aussi.
Mais non, en revanche, alors je ne vais pas me tourner vers Elias, mais c'est un peu une petite pierre dans le jardin de Karim Benzema.
C'est un rocher.
Est-ce que, tout simplement, ma question, alors il n'y a pas de piège encore une fois, est-ce que le meilleur avant-centre de l'histoire du football français peut avoir une carrière? Alors attendez, Benzema, c'est quand même 81 sélections, je crois, et 27 buts, donc ce n'est pas rien. Mais n'empêche qu'on a toujours cette impression diffuse qu'il n'a pas pesé sur les événements et que ça s'est mal terminé pour lui.
C'est vrai, mais. Tu demandais par exemple ce qu'est un grand avant-centre. Glenn et Martin disaient qu'en gros, c'est un mec qui marque. C'est surtout un mec qui marque l'histoire. Là, on ne parle pas uniquement du plus grand avant-centre de l'histoire de l'équipe de France, mais si j'ai bien compris, de l'histoire du foot français en gros.
Exactement.
Et quand on se retourne, si dans quelques années on se retourne sur les 10 dernières années du football ou sur la carrière de Benzema, je pense que Benzema aura marqué l'histoire. Et je pense qu'on sous-estime un petit peu, on sous-estime un peu la trace qu'il laisse. Ici en France, parce qu'en fait, justement, on est victime de la loupe qu'on a sur l'équipe de France et sur ce qui s'est passé en équipe de France. Donc oui, c'est vrai, c'est un caillou dans sa chaussure. Si, honnêtement, s'il n'y avait pas eu ce problème d'incompatibilité, comme disait tout à l'heure Glenn, entre Trezeguet et Domenech, s'il n'y avait pas eu le souci avec Deschamps, on ne serait même pas là à débattre, en fait. Parce que s'il n'y avait pas eu de souci d'incompatibilité avec Deschamps, après, avec Dessy, c'est toujours plus compliqué. C'est toujours compliqué, voilà. Mais
non, mais papa, l'histoire... Papa et Benzema avec Dessy, c'est très bien. Hein.
Moi, laisse-moi finir, s'il te plaît. L'histoire, elle était... tu vois, c'était évident qu'elle allait s'écrire dans le sens d'un Benzema qui marque aussi l'équipe de France, comme il a marqué Lyon, comme il a marqué le Real. Et c'était évident.
Il a eu sa chance en équipe de France et ça n'a pas toujours très bien marché.
Tu ne peux pas me dire pour Papin, c'est un problème de timing et pour Benzema, c'est de la faute de Benzema. Si on a un qui est victime du timing et de l'époque, c'est Benzema en équipe de France. En 2012, quand même.
Je suis d'accord et pas d'accord avec toi. Parce que, justement, 2012, je trouve que c'est le bon exemple. Il est le fer de lance des Bleus. C'est lui qu'on attend. Et je me souviens d'une conf de presse de début de tournoi où il annonce qu'il a envie de tout casser. Et on l'attend gros comme une maison, Benzema, pour le coup. Mais ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure. Il a cette envie d'aider dans le jeu, de jouer. Et justement, là où il s'est un peu perdu à l'Euro 2012, c'est qu'il reculait beaucoup. Je me suis amusé récemment à poser la question, à rechercher combien il aurait de sélections aujourd'hui, Benzema, si il a disparu des radars en novembre 2015, enfin, dernière sélection soit octobre 2015. Tu peux quasiment mettre 10 par an s'il avait joué. Le type serait peut-être, je dis bien peut-être, à 130 sélections. Mais il y a un mais. Est-ce que, justement, ce Benzema-là, dans cette équipe de France-là, parce qu'on a toujours les fantasmes de dire avec Mbappé, ça aurait été fantastique. Avec Griezmann, ça aurait été fantastique. Mais est-ce qu'on est sûr que ce Benzema-là, finalement, aurait été compatible avec ces joueurs-là? Est-ce que ça aurait fonctionné? Parce qu'à un moment, tu ne peux pas tout empiler. J'ai beaucoup de mal à me pencher là-dessus.
Le talent, il s'empile souvent assez bien.
Alors, 2002, Coupe du Monde 2002.
Tu sais que l'addition... L'addition, c'est souvent par la soustraction. Malheureusement. Parce que tu peux pas. Mais non, mais tu peux pas. Parce que, encore une fois, il y a un avancement dont on n'a pas parlé, à raison. Si Olivier Giroud, aujourd'hui, il n'y a personne ici qui ira dire que Olivier Giroud est un meilleur attaquant que les quatre cités. Même toi, Martin.
Même moi. Mais ce que je sais, et j'en ai déjà parlé avec Elias, ce que je sais, c'est que l'équipe de France a été championne du monde avec Giroud. Je ne sais pas si elle l'aurait été avec Benzema.
Ouais, on est d'accord.
Peut-être que
mais,
oui.
Mais
peut-être
qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, d'accord.
Mais on enchaîne. Mais... Attends. Mais Ilias, en 2014, Benzema, c'est la star de l'équipe de France aussi. C'est une Coupe du Monde. Il n'est pas si mal entouré. Il y a
c'est la star de quelle équipe de France?
Bah,
c'est
bah, attends, non, tu ne peux pas dire ça.
C'est un embryon d'équipe de France. Non, c'est une équipe de France qui fait le maximum de ce qu'elle peut à ce moment-là.
Ilias, 8e de finale, quart de finale, Benzema, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est à ce moment-là aussi où il doit porter son équipe, où il doit s'investir comme leader. Et il ne l'a pas été. Donc peut-être que l'équipe de France aurait été championne du monde avec Benzema et sans doute, tu mets les adverbes que tu veux, mais je n'en ai pas la certitude aujourd'hui. Je n'en ai pas la certitude.
L'histoire de l'équipe de France, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu linéaire. Genre ce quart de finale en 2014, la finale en 2016 et le titre en 2018. Il y a une cohérence aujourd'hui quand on regarde ça avec le recul. Benzema, il a fait partie quand même des premiers chapitres. Et il n'est pas ridicule. Et s'il met l'occasion contre l'Allemagne, bah, peut-être c'est une toute autre histoire. Mais tu vois, je vois aucune raison raisonnable de dire, aucune raison raisonnable, c'est un pléonasme, de dire que. En 2018, il aurait été préjudiciable à l'équipe de France. Tu vois, ça paraît logique.
Pas qu'il aurait été préjudiciable.
Son talent et vu ce qu'il a fait, il aurait été dans le sens de l'histoire et dans le sens de ce titre. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a rien qui permet de dire l'inverse.
Ouais. Pour aller dans le sens d'Iliès, en plus, Benzema a évolué aussi.
C'est pas un débat sur Benzema et l'équipe de France. Mais juste, moi, j'ai la question que je me pose et je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas où je mets Benzema dans cette équipe de France-là. Celle de 2018, c'est-à-dire dans. Alors tu vas me dire, Mathieu dit, joue milieu gauche. Oui, mais c'est peut-être pour ça qu'elle gagne aussi la Coupe du Monde. Je ne sais pas comment je l'aurais intégré, voilà, plus typiquement.
Mais, en attaque
mais où
à la place d'Olivier Giroud. Non, mais enfin, c'est-à-dire que. Ah ouais, bah pour moi, après, c'est pas le débat, mais. Oui. Forcément, c'est peut-être une autre animation dans les détails. Mais c'est-à-dire que Benzema, c'est un mec qui aurait fait jouer Mbappé, qui aurait fait jouer Griezmann. Très bien. Mais en tout cas, de toute façon, on ne sera pas d'accord là-dessus. Parce qu'on va parler des...
Pour revenir au débat, justement, c'est ce que j'allais dire. Ça manque quand même cette équipe de France dans son parcours. Pour être le plus grand avant-centre de l'histoire.
Exactement. C'est-à-dire que voilà, j'avais commencé par là en vous disant qu'en gros, sans ça, sans ce petit caillou dans la chaussure, il n'y avait même pas de débat pour moi aujourd'hui. Mais même avec ce petit caillou dans la chaussure, on l'a peu dit aujourd'hui, mais Benzema, faut quand même rappeler, c'est 4 Ligue des Champions, c'est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est un mec qui a marqué le Real Madrid, meilleur passeur de l'histoire du Real, 4e ou 5e, je crois, meilleur buteur de l'histoire du Real. Enfin, ces accomplissements de carrière, on en a pas parlé aujourd'hui, c'est imposant, quoi. C'est impressionnant, c'est important. Et en termes de longévité, par rapport aux mecs dont vous parlez, qui parfois ont eu des coups de moins bien, qui parfois ont eu des échecs dans certaines expériences, qui parfois n'ont pas réussi à garder leur niveau de jeu au même standard, Benzema, en termes de longévité et de régularité au plus haut niveau, c'est impressionnant.
Ça n'a pas toujours été fantastique. Bah,
évidemment, ça n'a pas toujours été.
Ah oui, bah, donc,
ça n'a pas non plus toujours été le leader du Real.
Non, le vrai problème.
Mais pourquoi est-ce que ça devrait être le leader du Real?
Parce que c'est pas lui qui incarne les succès du Real.
Oui, mais on parle de quoi? Tout à l'heure, on parlait d'obsession, là, on parle d'incarnation. Moi, je vous parle de talent et de football.
Non, mais t'englobes tout. Mais oui, mais
non, mais peu importe l'incarnation, c'est-à-dire que quand t'as un Cristiano Ronaldo qui est un des deux meilleurs joueurs de cette génération de footballeurs, bah oui, forcément, t'es pas l'incarnation ultime.
Bah oui, mais Thierry Henry, ça a été le meilleur joueur de sa génération.
De sa génération, non.
De sa génération, je dirais pas. Le ballon d'or déjà pourrait
illustrer. D'accord. Donc Nedved, il fait une meilleure carrière. Cannavaro, il fait une meilleure carrière.
Non, mais pour le meilleur joueur de sa génération, il faut quand même avoir un ballon d'or.
Alors je sais qu'il a eu des problèmes, mais bon, je ne fais qu'un Ronaldo devant. Le Brésilien.
Oui, mais c'est mais pour moi Ronaldo, c'est pas vraiment cette. Ouais.
Ah si, c'est la même. Il faut un an.
Ouais.
Peut-être meilleur joueur de son année de naissance alors, de son mois de naissance peut-être. Non, je te charrie, c'est bon.
Non, mais pour moi, il manque ça à Benzema. Après, oui, mais moi, je le mets en numéro 2, Benzema. Donc.
Et footballistiquement, mon dernier argument, c'était quand même que footballistiquement, j'ai parlé de la régularité, de la longévité et tout au plus haut niveau, et puis du palmarès, mais quand même footballistiquement, pour moi, c'est le plus complet des quatre dont on parle. Ça veut dire que l'obsession du but, Martin, tu le disais toi-même tout à l'heure, il l'a aussi, il l'a comme en fait les trois autres, mais en termes de profil footballistique, de qualité technique, athlétique, tactique, je trouve que c'est l'aboutissement du poste de numéro 9. Quoi. Tous les 9 ne sont pas comme ça, évidemment. Il ne faut pas qu'il le soit. Mais je trouve que c'est le plus complet des 4. Et c'est quand même important de noter.
Ouais.
Pour moi, c'est le meilleur footballeur des quatre, en fait.
Je te rejoins totalement sur, sur le côté polyvalence et même cette façon de s'adapter au jeu de Ronaldo pour être le complément idéal de Ronaldo est juste majeur. Enfin,
c'est majeur. Mais de toute façon, pour voir que c'est un meilleur footballeur, je veux dire, intrinsèquement, il suffit de l'imaginer. Tu prends les quatre qu'on a donné là, fais-les reculer tous d'un rang, mets-les au milieu de terrain. Je suis à peu près sûr que celui qui s'en sortirait le mieux devant Henri,
c'est Benzema. Trezeguet, ça serait pas mal. Hein
c'est un avant-centre, c'est ça, c'est un pur avant-centre, c'est justement le débat.
On a mis une pièce dans la machine.
Ouais, c'est... celui qui s'en sortirait le mieux, c'est évidemment Benzema, parce que j'imaginerais très bien.
Parce que c'est un faux avant-centre.
En 8 ou en 10.
On s'est bien amusé, vous vous êtes bien amusé.
Avec,
vous avez 12 joueurs à rôle, c'était sympa, mais bon, maintenant, pour peut-être mériter aux gens.
avec Maître Badinter, c'est lié.
Ah oui.
Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on n'a pas réussi à se mettre d'accord. C'était un peu le but et l'idée. Malgré ce qu'en pense Martin et qu'il va aller les claironner sur tous les toits pendant tout le week-end en attendant la sortie du podcast. En tout cas, c'était très sympa de parler avec vous, de parler de Henri, de Jean-Pierre Papin, de Trezeguet et de Karim Benzema. Ce fut un plaisir. Ilyes, on va te laisser le mot de la fin, comme c'est toi l'invité. Et on est sûr que tu vas conclure de la meilleure des manières parce que le sens des mots, le sens de la formule, on a envie de t'entendre.
Toi, tout à l'heure, tu nous as demandé, je peux donner les coulisses, tu nous as demandé quelques minutes pour préparer l'intro. Moi, tu me prends au dépourvu comme ça sur la conclusion. C'est pas très fair-play. Non, ce que je peux dire, c'est que ce type de discussion, on les avait, j'ai eu la chance de passer un certain temps avec vous. On les avait comme ça régulièrement au bureau, à la machine à café, etc. C'est bien que ça devienne un podcast. Je suis content de voir qu'aujourd'hui, les gens peuvent en profiter de ces discussions. Et donc, ça m'a fait évidemment plaisir de les retrouver.
T'es juste en train de dire que c'est le café du commerce. Donc, ouais.
Non.
Alors, je suis en train de dire que les discussions de café et d'Eurosport ont le niveau d'un podcast de haute qualité. C'est différent.
Ouais, c'est gentil. Et ça serait une superbe punchline pour vendre l'émission sur les réseaux sociaux.
N'hésitez pas quand vous avez besoin.
J'espère que tu nous inviteras sur Mediapart pour discuter Nico Sarko.
Ça sera un peu moins enflammé, intéressant. Je crois. Enfin, en tout cas, marrant. Intéressant, ouais. Un peu moins drôle, mais avec plaisir.
Merci messieurs. Déjà, avant de se quitter, puisqu'il n'est de bonne compagnie qui ne se quitte, on va rappeler comment retrouver le podcast sur toutes les plateformes. Je ne vais pas vous lancer la patate chaude parce que si je vous la donne comme ça dépourvue, vous ne donnerez peut-être pas les bonnes plateformes. Alors on va dire Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify, entre autres. Vous mettez 5 étoiles, c'est important. Parce que comme ça, vous pourrez facilement retrouver le podcast dans les classements. Et surtout, vous vous abonnez. Comme ça, vous recevez chaque semaine le nouveau podcast. Et vous aurez peut-être la chance de revoir Ilyes Ramdani dans une prochaine édition de ce podcast. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine édition de Qui c'est le plus fort? Salut!
Salut!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.